Merci d'écouter Fréquence Mistral, une émission spéciale proposée et présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, c'est une émission particulière que nous avons coproduite avec nos amis de l'Office de tourisme communautaire de la Durance Luberon-Verdon agglomération. Et nous allons parler de quelque chose qui va nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. C'est tout simplement les circuits courts sur notre territoire. La France est réputée pour ses produits de qualité qui ont fondé notre gastronomie et notre art de vivre. La Provence et notamment le territoire de Durance-Luberon-Verdon agglomération peut compter sur des producteurs talentueux et inventifs. Ils sont au cœur de cette émission qui est coproduite avec l'Office de tourisme de la DLVA et Fréquence Mistral. C'est une balade tout en gourmandise et curiosité que nous vous proposons et sans aller chercher bien loin. Huile d'olive, miel, fromage, charcuterie, vin et même bière, sans oublier les fruits et légumes en abondance. Notre terre subvient à nos besoins et même plus, et tout ça depuis des millénaires grâce à des magiciens discrets et méritants, nos agriculteurs. Ils sont les vedettes de cette émission et nous allons voir aussi comment ils s'organisent pour vendre leurs produits afin de vivre de leur métier et toucher un public de plus en plus convaincu des bienfaits des circuits courts. Nous entendrons des producteurs dynamiques, leur miel, leur vin ou leur bière sont les fruits des terroirs et de leur travail. Ils nous diront aussi comment ils commercialisent leur production et le lien qu'ils entretiennent avec les consommateurs. Et puis avec leurs interviews, deux invités en plateau, Catherine Abbas-Racine, représentant la coopérative de producteurs Couleurs Paysannes, une dynamique collective désormais bien ancrée à Manosque, Valensol et Venelle. Présent également Clément Balcon, chargé des relations extérieures à l'Office de tourisme communautaire. Il nous dira l'intérêt pour le territoire d'avoir de si belles et si bonnes propositions agricoles à portée de main. Bienvenue sur Fréquence Mistral pour une promenade radiophonique qui allie économie et gastronomie. Bonjour Clément Balcon.
Bonjour.
Vous êtes en charge des relations extérieures à l'Office de tourisme communautaire de Durance-Luberon-Verdon agglomération. On rappelle, Durance-Luberon-Verdon agglomération, 25 communes.
Oui, c'est ça, 25 communes avec près de 63 000 habitants, hein, qui représentent à peu près 40% de la population totale du département. Donc on est vraiment dans un bassin de vie qui est important. Alors, parmi les noms les plus évocateurs, on va citer Manosque, on va citer évidemment Valensol et son plateau, et puis Gréoux-les-Bains, la troisième station thermale de France. Mais, comment dirais-je, au-delà de ce triptyque un peu connu, on a des petits endroits un peu préservés. Je pense du côté du Verdon, par exemple, à Montagnac, Montpezat, Quinçon. Du côté d'Urance, nous avons Entrevennes, puis Michel. Et puis du côté Luberon, je pense bien évidemment à Montfuron, qui est un petit village absolument magnifique, qui est complètement dans l'appellation de Pierre Vert, avec des beaux coteaux qui descendent.
On va parler justement de viticulture dans un instant, Clément. On le sait, c'est un territoire fortement rural.
Oui, absolument. Oui, tout à fait. Par rapport à l'Office de tourisme, ce qui est vraiment extrêmement intéressant et positif, c'est de s'apercevoir que le terme de circuit court entre vraiment dans le langage courant. Et nous, de notre côté, nous avons grand plaisir à participer directement à des initiatives en accompagnant des producteurs, en développant des partenariats, notamment avec Couleurs Paysannes, en menant des projets, mais bien évidemment aussi de valoriser et de diffuser une information qui reste la mission première d'un office de tourisme.
Attendez, vous avez un poste qui est magnifique, là. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, là ?
Ouais.
Valoriser le vin du territoire, les légumes, les fruits, etc.
J'en ai conscience.
Beaucoup de gens doivent vous envier, hein, Clément ?
Oui.
Vous êtes vous-même breton, d'ailleurs, vous venez d'un autre territoire. Votre regard sur notre territoire, justement, sur les Alpes de Haute-Provence et plus particulièrement le sud du département.
Alors, moi, ce qui m'a plu ici, quand je suis arrivé, c'est que on est sur un territoire à la densité démographique assez faible. Donc, beaucoup d'espaces préservés, beaucoup d'espaces dédiés à la culture et à l'agriculture.
On connaît la distanciation ici, vous avez remarqué. Hein.
Exactement, c'est ça. Donc, du coup, j'ai envie de dire que le rapport aux producteurs, aux agriculteurs, il est tout de suite beaucoup plus évident et beaucoup plus direct que dans d'autres territoires. Et puis, ça reste le poumon, j'ai envie de dire, de la région PACA. Et victime de son succès, d'ailleurs. On peut voir actuellement le nombre de touristes qui est dans le Verdon. C'est assez impressionnant.
Vous avez parlé de poumon et effectivement, on est quelque part un poumon, que ce soit pour l'alimentation en eau ou pour l'alimentation, tout simplement, des territoires avec tous ces producteurs. C'est aussi un critère économique extrêmement important. Le fait d'avoir des producteurs locaux qui produisent sur le territoire lui-même.
Absolument, absolument. Et pour replacer dans un contexte touristique, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché aujourd'hui. Nous, on valorise beaucoup les circuits courts dans l'ordre d'accueil presse, d'accueil de tour opérateurs, d'agences de voyage, d'agences réceptives, dans le cadre d'accueil de blogueuses, d'influenceuses. Et puis lors de la présence, on va dire, sur des salons et des événements hors les murs. Mais c'est une forme de tourisme, si on parle d'un mot qui est un petit peu peut-être galvaudé ou mal compris, mais d'écotourisme, c'est extrêmement important. Et je crois que la stratégie du territoire, c'est vers là qu'elle se dirige. C'est-à-dire que de faire du tourisme en faisant attention à son environnement et en consommant local.
Et comment ne pas penser à la première émission que nous avons réalisée dans ce cadre, ici même à Manosque, et qui était consacrée à la lavande, justement, qui est le produit phare des Alpes de Haute-Provence, et plus particulièrement du plateau de Valensole. Et on a vu, avec tous ces animateurs du territoire et du terroir, combien c'était ancré dans le territoire, et combien c'était prisé aussi par les touristes, par les visiteurs, et aussi, il faut le dire, par les autochtones, entre guillemets, qui ont la chance d'habiter ce territoire. Il y a un autre produit aussi qui est important, c'est le vin, par exemple. Et on va parler du vin. Alors, évidemment, tout de suite, il faut le dire, à consommer avec modération et surtout avec délectation. La Provence, c'est une terre viticole et depuis deux siècles, le Château Rousset à Gréoux-les-Bains exploite un vignoble qui gagne en réputation chaque année. Fin du siècle dernier, une dynamique volontaire est engagée pour faire du Château Rousset une appellation reconnue aujourd'hui, conduite par Thomas Emery. La société se développe, se modernise encore et construit d'ailleurs un nouveau caveau pour répondre à ses ambitions. Une clientèle locale et régionale, mais aussi des ventes à l'étranger, Japon et Hong Kong par exemple, l'étiquette Château Rousset gagne patiemment cette lettre de noblesse, tout en conservant avec fierté son caractère de vigneron indépendant, ce que confirme Thomas Emery, qui évoque aussi les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Thomas Emery, vous êtes le gérant du Château Rousset, vous pouvez nous présenter votre société ?
C'est une société familiale qui est dans notre famille depuis 1825 maintenant, donc un certain nombre d'années, qui était passée en cave particulière après-guerre, et que mes parents ont repris, donc toujours dans la famille, en 86, et moi je les ai rejoints en 2003. C'est un domaine en ce qu'on appelle en vigneron indépendant, en cave particulière, c'est-à-dire qu'on fait tout, de la plantation de la vigne à la commercialisation du vin, on fait tout de A à Z, comme des bons artisans.
Il y a donc un héritage important, mais en même temps, il y a une modernisation, notamment sur la diffusion et la production et la commercialisation de vos produits.
On améliore ce qu'on reçoit et on essaye de transmettre à nos enfants quelque chose qui pourrait encore un peu améliorer. Donc, ça s'est fait dans la production, avec le passage en bio, l'amélioration d'un tas de petits détails pris un par un, qui font qu'on passe d'un vin moyen à un bon vin et qu'on passera à un excellent vin petit à petit. La commercialisation, c'est quelque chose qui devient facile quand le vin est bon. C'est vrai qu'on a tendance surtout à travailler les produits. Après, on a souvent été un peu casanier à pas trop sortir. On fait quand même assez peu de salons, assez peu de ces choses-là. Mais en même temps, le vin commence à rayonner, à être connu. Et il y a 10-15 ans, on vendait presque 90% de la production dans le 0,4-0,5. Maintenant, on en vend toujours autant dans 0,4-0,5, mais on en vend partout en France et dans le monde. Et avec des nouveaux clients qui viennent chaque année. Donc on est assez satisfait de ça.
Quels sont les produits phares du Château Rousset ?
Ça, c'est une chose qui est un petit peu dure à dire pour moi. On essaye de faire chacun de nos produits le mieux qu'on peut et avec tout notre cœur. Donc, d'en définir un, c'est un petit peu dur. Historiquement, dans l'appellation, on a toujours fait les trois couleurs, blanc, rouge, rosé. C'est vrai que les blancs et rosés sont peut-être des choses qui sont encore plus faciles pour nous de par le terroir, de par le côté fraîcheur qu'on a de proximité des Alpes. On fait des très bons rosés et blancs très, très facilement. Les rouges, on peut en faire des excellents, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande certains terroirs, certains travails, même si je pense qu'on est quand même une magnifique région rouge.
Vous êtes très attaché à votre statut de vigneron indépendant. Comment est-ce que vous faites pour commercialiser vos produits ?
Ça s'est fait beaucoup de bouche à oreille. Comme je vous disais, au début, on faisait pas de salon, on démarchait assez peu. Ensuite, c'était les gens qui, en goûtant petit à petit. Après, c'est vrai que moi, quand je suis revenu sur l'exploitation, je me suis permis, des fois, au cours de voyage, d'aller voir quelques cavistes et de leur laisser quelques bouteilles pour qu'ils goûtent. Le retour a souvent été très bon et ça s'est fait un peu comme une toile qui grandit. Maintenant, ça couvre un peu la France entière. On travaille beaucoup avec les cavistes. C'est vrai que l'appellation étant quand même encore assez peu connue, pas à la hauteur vraiment du niveau qu'elle a. On a besoin de ce qu'on appelle des prescripteurs, c'est-à-dire des gens qui tombent un peu amoureux de nos vins. Souvent, c'est le cas des cavistes avec qui on travaille et qui vont, parce que eux connaissent bien leurs clients et parce que les clients leur font confiance, qui vont leur dire, tiens, goûte ce Pierre Vert ou cette Alpe de Haute-Provence, ce petit vin-là que j'ai découvert et qu'ils adorent, et les clients leur font confiance et découvrent les vins comme ça. C'est humain, de toute façon, souvent, comme relation.
Le Château Rousset, bien sûr, c'est du vin, mais votre exploitation produit également d'autres produits.
On est un petit stéréotype provençal, hein. On fait de l'huile d'olive, ma femme faisait et fait encore un petit peu de miel. Quand on se balade un peu dans la colline entre les vignes, on retrouve des amandiers, on retrouve des mûriers de Chine. Il y a encore les traces de magnaneraie, ça a été des bergeries. C'est vrai qu'on retrouve un peu tout ce qui fait la Provence et la Haute-Provence.
Est-ce que vous avez souffert de la crise sanitaire ?
C'est des choses qui sont toujours un peu déstabilisantes. C'est vrai que du jour au lendemain, à un moment, tout s'est arrêté. On ne savait plus trop où aller. Après, on a la chance, nous, que la vigne se moquait un peu du virus et n'attendait pas que tous les gens qui travaillaient avec nous sur l'exploitation ont été motivés, de bonne humeur et ont continué à travailler. Alors, on a adapté toujours pour respecter les gestes barrières. Mais ça s'est fait, ça nous a donné quand même un bon fil rouge, une bonne continuité. Après, il y a eu des petites choses un peu, c'est-à-dire que les quelques concours qu'on fait, pour beaucoup, ont été annulés ou repoussés au mois de novembre, qui est un mois où on a déjà plus de vins, nous presque. Donc ça manquait un peu d'intérêt, mais le seul qu'on a pu faire, on a eu 3 vins qui ont été médaillés d'or. Ça nous a déjà apporté un petit peu de soleil.
Thomas Emery, magnifique vigneron indépendant du Château Rousset à Agréhoux-les-Bains. Et Clément Balcon, il n'y a pas qu'une cave dans le territoire, il y en a plusieurs dans le territoire de la DLVA.
Oui, tout à fait. Alors je citerai le domaine La Blaque, le domaine de Régus, le château Saint-Jean-les-Durances, la cave de la Madeleine, la cave coopérative de Pierre Vert et celle de Quinçon, bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier.
Alors, vous pouvez faire la tournée des caves si vous voulez, mais attention, je le répète, avec modération et délectation. Ces vignerons sont à même de pouvoir renseigner directement le public, comme le fait Thomas, d'ailleurs, au Château Rousset. Hein.
Absolument, absolument. Il faut inviter les locaux, les touristes, à aller à la rencontre de ces producteurs. Oui, tout à fait. Et puis, généralement, on est sur des lieux qui sont plutôt sympas à visiter.
Alors, sauf peut-être pendant la période de vendange, où là, tout le monde est plutôt sur le pont. Et donc, mais c'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, n'hésitez pas à visiter les caves et à pousser les portes des caveaux. Vous ne le regretterez certainement pas. Il y a un gros projet, Clément, qui est mis en place par l'Office de tourisme. C'est un projet transalpin.
Tout à fait. Le nom du projet, c'est Ampelos. Alors, pour la petite note poétique, hein, Ampelos, dans la mythologie grecque, c'était l'amant de Dionysos et dont la mort, finalement, a donné naissance au vin et à la vigne. Voilà. Pour quelque chose d'un petit peu plus prosaïque, on est dans un projet, hein, Interreg Alcotra, c'est un projet effectivement européen, transalpin. Entre l'appellation, ou du moins les Alpes de Haute-Provence, et du coup l'appellation d'origine protégée de Pierre Vert, et la région dans le Piémont italien de la province de Cuneo, dans les Langues Hero-Hero. Voilà. Alors, l'enjeu de ce projet, c'est avant tout de développer les territoires ruraux grâce à l'œnotourisme, bien évidemment, et de capitaliser les savoirs entre ces deux partenaires.
Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, plusieurs choses. Il y a des échanges de bons procédés et des voyages. Par exemple, les vignerons de l'appellation de Pierre Vert vont aller en Italie et découvrir le savoir-faire vitivinicole et l'aspect culinaire, bien évidemment, parce qu'il y a aussi cet aspect là de gastronomie et culinaire qui est important dans le projet. avec des voyages également pour découvrir d'autres domaines en Alsace, par exemple, des voyages de presse. À la fin du mois d'août, on reçoit quelques journalistes pour justement valoriser les projets qui vont en découler de du projet en pelot, hein, c'est-à-dire des randonnées dans les vignes, pédestres, avaient été des dégustations, un accueil dans les domaines, etc.
Tout ça,
etc.
C'est ouvert au public ?
Ou ça le sera, bien évidemment.
Ça le sera.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, oui.
Donc c'est une bonne chose et en même temps l'Office de tourisme est dans son rôle d'animateur là, hein, en termes à la fois économiques et puis territorial. Donc on est dans quelque chose de vraiment particulier et spécial. Donc le vin est plutôt bien servi dans les Alpes de Haute-Provence, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas que le vin, vous le savez, hein, aussi il y a aussi la bière, et c'est une évolution marquante car depuis quelques années, plusieurs producteurs de bière sont présents en Provence. À l'image de la désormais célèbre Petra, brassée en Corse, on peut trouver des breuvages mousseux et goûteux fabriqués sur notre territoire. C'est ce que font Christophe et Isabelle Duquesne à Oraison. Ils ont créé la marque Cerevisia qui produisent des bières de qualité fortement marquées d'une identité gauloise. Et si cette boisson est désaltérante, la bière est aussi délectable à l'image du vin et ses grands crus. Choisissant avec soin leurs céréales et ingrédients, les brasseurs d'Oraison ont aussi développé leur réseau de distribution et c'est avec un plaisir communicatif qu'Isabelle accueille des groupes pour des visites de la brasserie avec dégustation. C'est à l'issue d'une de ces visites que je l'ai interviewée. Isabelle Duquesne.
Cerevisia, c'est une longue et belle histoire. Elle est née il y a à peu près 7 à 8 ans maintenant en arrière, tout simplement parce qu'on cherchait à faire une bière, une bonne bière après l'effort, puisque nous sommes sportifs dans la famille, et on cherchait une bonne bière de récupération. On va dire une bière qui ne fasse pas mal du tout au niveau du corps. Et on s'est rendu compte que c'était une bière gauloise, une cervoise. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fabriquer nos bières il y a 7 ans et demi en arrière.
Vous dites vos bières, ça veut dire qu'il y a plusieurs parfums ?
Oui, on est sur 9 références de bière et on a 2 nouvelles qui vont sortir bientôt. Nous avons 4 blondes différentes, donc une blonde classique, une cervoise classique, une cervoise, une blonde qui est refermentée au miel de lavande, une blonde au baies de genévrier et une blonde aux amandes de Provence. Ensuite, on a une blanche très fraîche, très légère, en fin de bouche avec un peu de coriandre et d'écorce d'orange amère, très acidulée, une ambrée, une triple, une rousse, une brune, et il y en a encore 2 autres qui vont sortir bientôt.
Il y en a pour tous les goûts. C'est vous qui fabriquez vous-même vos produits ?
Tout à fait, Christophe, mon mari, et moi-même. Donc nous sommes 2. La gamme est très large parce que justement, mon mari est plus sur des bières plus fraîches et plus légères, et moi je suis plus sur des bières un peu plus maltées. C'est pour ça que notre gamme est assez large.
Quels sont les ingrédients principaux pour faire une bonne bière ?
Des céréales, beaucoup de céréales, beaucoup, beaucoup, beaucoup de céréales. Alors de l'orge, bien sûr, mais nous, on travaille aussi l'orge, l'avoine, le seigle, l'épeautre. Et des épices comme de la coriandre, de l'écorce d'orange amère. On va mettre des baies de genévrier, on va mettre du gingembre, des amandes de Provence, enfin, du miel, de lavande, de chez Frume, directement d'Oraison.
Comment est-ce que vous commercialisez et vous distribuez vos bières ?
On fait quelques marchés des artisans, donc tous les ans, tous les étés. On aime bien se rendre au contact directement avec les clients, discuter avec eux, voir directement leur ressenti sur la bière. Et après, elles sont distribuées, on va dire, dans tout ce qui est épicerie fine, dans les fermes, dans les caves à vin, les caves à bière, au restaurant. Vous pouvez les déguster directement sur le restaurant. Donc dans la région PACA, nous avons à peu près 100 de distributeurs.
Vous avez également une boutique ici même à Oraison et vous recevez de temps en temps des groupes pour leur faire visiter votre installation.
Quand on a créé la bière, c'est vraiment une bière de partage, de convivialité, et on voulait absolument faire partager ce moment avec tout le monde, donc avec ceux qui ne connaissent pas du tout la fabrication de la bière, ceux qui n'aiment pas forcément la bière ou ceux qui aiment, ceux qui sont adeptes de la bière, et leur expliquer un peu comment on travaillait, comment se fait une bière. Et donc on fait visiter directement l'atelier de fabrication le lundi, le mercredi et le jeudi, et on a une petite dégustation directement sur place.
Alors vous allez nous donner les secrets d'une bonne dégustation. Comment est-ce qu'on apprécie véritablement une bonne bière ?
Une bière artisanale, c'est comme un bon vin. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se poser, de déguster, de sentir, de humer, de la voir en bouche, de la faire tourner directement dans la bouche pour pouvoir faire sortir directement les arômes. C'est pas une bière de soif, c'est une bière de partage et de convivialité.
Vous avez des projets de développement ?
Écoutez, nous sommes deux dans l'entreprise, donc développer, oui, on continue encore à se développer, on a encore un potentiel pour pouvoir agrandir et produire encore un peu plus. Si on peut encore se développer sur le secteur de la région PACA avant de distribuer un peu plus loin, pourquoi pas.
Isabelle Duquesne de Cerevisia à Oraison. Retour en plateau sur Fréquence Mistral. Vous êtes en direct à Manosque et sur une émission consacrée au circuit court. Et nous allons parler de couleurs paysannes. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Abbas-Racine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes la présidente vous-même du magasin de Venelle dans les Bouches-du-Rhône. Et Couleurs paysannes, je le rappelle, a été créée il y a 8 ans. C'est une coopérative de producteurs. Couleurs paysannes est devenue incontournable. Manosque, Valensole et Venelle, ces trois points de vente allient qualité des produits et commercialisation intelligente. Nous allons en parler avec vous, Catherine, mais d'abord, votre propre activité. Vous êtes vous-même maraîchère.
Nous sommes maraîchers sur Pertuis et nous sommes spécialisés dans les fraises, les asperges vertes, mais nous faisons tout au long de la saison les légumes de saison, donc en ce moment des courgettes, des poivrons, des aubergines et des tomates, bien sûr.
Comment est-ce qu'est né le principe de couleurs paysannes, c'est-à-dire le regroupement de ces producteurs en coopérative pour vendre directement leurs produits?
En fait, l'initiative est partie de Manosque, de producteurs de Manosque, plus particulièrement de producteurs de fruits, d'arboriculteurs, qui ont souhaité assurer eux-mêmes la commercialisation pour proposer aux consommateurs une autre façon de consommer.
Avec aussi, tout simplement, l'établissement d'un magasin. Et quel magasin ? Celui de Valensole est très important.
Alors effectivement, le projet d'emblée a été un projet ambitieux. Donc s'il est parti d'arboriculteur, il a tout de suite rassemblé d'autres productions. Et notre idée, c'était de proposer aux consommateurs tout ce que l'on a besoin pour faire les repas de toute la journée. Donc on a rapidement eu dans le groupe, bien sûr, des maraîchers, des éleveurs, des producteurs de fromage, et puis des producteurs de différents produits du rayon épicerie. On a des confitures, on a des petits gâteaux, et on a même de la cosmétique.
On est là dans une autre dynamique qu'un tréteau avec un parasol au bord de la route.
Ah oui, tout à fait. Quand je disais que c'était un projet ambitieux, on a construit notre magasin qui fait 400 mètres carrés de surface de vente et quasiment la même surface en stockage. Donc on a tout de suite eu envie de faire un grand magasin.
Et quand on dit circuit court chez vous, on dit rayon kilométrique.
Oui. Alors, nous avons énormément de chance, nous sommes dans une région où l'agriculture est très diversifiée. Ce qui fait que dans un rayon de 100, 110, jusqu'à 120 km, on a tous les produits pour tous les rayons. Donc on a bien sûr toutes les races on a toutes les viandes en fait, du bœuf, du porc, de la volaille, on a même du pigeon, on a du poisson, on a de l'agneau bien sûr, on a du poisson, on a différents types de fromages, brebis, chèvres, vaches bien évidemment. On a bien sûr tous les fruits et légumes. On est très très riche dans notre rayon fruits et légumes. Nous avons même les agrumes de la région de Menton. Nous avons la chance d'avoir les agrumes des derniers petits vergers de la région de Menton. Donc ça, c'est des produits tout à fait d'exception. Et là, on reste dans du produit de la région.
Et vous produisez aussi des produits transformés, comme par exemple la charcuterie, à partir de vos viandes. Par exemple aussi les confitures, je pense aussi la tapenade, des choses comme ça, qui sont évidemment transformées par les artisans eux-mêmes. Ces artisans qui deviennent aussi, quelque part, marchands, puisque c'est eux qui vendent de temps en temps dans les boutiques, dans vos boutiques.
Alors, des artisans, mais des producteurs avant tout. Nous sommes coopérative agricole et pour entrer à couleur paysanne, il faut être agriculteur. Donc agriculteurs qui ont intégré la fonction d'artisan et de transformateur, mais qui transforment leurs propres produits. Donc pas d'artisan en tant que tel. Quand on vient à Couleur Paysanne, on a la garantie d'acheter à des producteurs agricoles.
Alors justement, on a la garantie d'acheter, on a la garantie d'être accueilli également. Comment ça se passe depuis 8 ans? Vous avez assisté à une courbe ascendante de votre clientèle?
Ah oui, tout à fait. En fait, courbe ascendante de notre clientèle et courbe ascendante de l'offre produit. On a démarré il y a 8 ans avec un petit peu plus de 1000 références. On a aujourd'hui 2500 références. Et ça, c'est un des aspects extrêmement vertueux de Couleur Paysanne, puisque les agriculteurs ont développé des nouveaux produits. En ayant accès directement aux clients, ils ont développé des nouveaux produits parce qu'ils avaient la vente directe de ces produits, et puis parce que les clients nous faisaient des retours en disant bah, « Tiens, avec tel produit, pourquoi est-ce que vous ne faites pas telle et telle transformation ?»
Alors Catherine, vous êtes maraîchère, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Bio ou pas bio?
Alors, agriculture raisonnée. Alors, à Couleur Paysanne, nous avons des producteurs bio et des producteurs qui ne sont pas bio. Moi, j'utilise pas le terme de conventionnel parce que j'aime pas ça. C'est des producteurs qui sont en agriculture raisonnée. Nous avons une charte interne. Mais vous savez, la frontière entre bio et agriculture raisonnée, elle est parfois pas si évidente que ça, parce qu'en agriculture raisonnée, on utilise des moyens naturels pour lutter contre les ravageurs. Nous-mêmes, on est serristes et on utilise beaucoup de moyens naturels. On utilise des bourdons pour polliniser nos plantes, on utilise des insectes dits utiles, qui vont lutter et qui vont manger les insectes nuisibles. On utilise des huiles essentielles qui sont faites des répulsifs par rapport à certains ravageurs. Donc en fait, on est tous à Couleur Paysanne engagés dans une démarche, je dirais, co-responsable, qui respecte le produit, qui respecte l'environnement, qui respecte les consommateurs et qui respecte nos salariés.
Avec également beaucoup de conseils qui sont donnés aux consommateurs par justement les producteurs qui sont là.
Ah ben ça, c'est une chance, bien sûr.
Et donc, c'est un des aspects des ventes directes aussi, c'est important. Vous êtes vous-même présidente de Venel, donc cette antenne particulière dans les Bouches-du-Rhône de Couleur Paysanne. Ça se passe bien?
Ça se passe bien. Alors Venel, on a ouvert le magasin à Venel il y a maintenant 5 ans, dans un contexte extrêmement différent, dans une zone commerciale. Alors qu'à Valensole, on est en pleine campagne, à Manosque, on est en centre-ville, mais là, nous sommes dans une zone commerciale et nous ciblons la clientèle, une clientèle plutôt citadine. Donc c'est une nouvelle expérience, il a fallu un petit peu s'adapter et travailler différemment de Valensole, mais c'est une belle expérience.
Je suppose également, j'irai vous voir bientôt, tiens. Et puis, une Couleur Paysanne dans une zone artisanale, c'est commercial, c'est plutôt intéressant. C'est une bonne proposition, certainement, pour le public. Couleur Paysanne, c'est aussi beaucoup d'animation, avec par exemple à Manosque la création des toquets, avec un snack qui a été installé il y a un an à peu près, c'est ça
Oui, ça va être notre deuxième été.
Voilà. Et puis, des animations aussi, il y a pas mal de musique,
hein. Oui. Des concerts, des soirées effectivement concerts et avec une thématique. Jeudi dernier, c'était moules frites, puisqu'on a des moules dans le magasin. En fait, le snack, la toque paysanne, c'est en priorité des produits de Couleur Paysanne.
Évidemment, on ne va pas vous demander d'aller vous fournir dans une grande surface quand même.
Non, pas du
vous.
Tout.
Pas vous.
On aurait du mal.
Donc vous restez avec nous, Catherine. On parlera de et vous conclurez tout à l'heure avec Clément Balcon cette émission, cette belle émission qui nous met l'eau à la bouche, évidemment. Et on va continuer justement à vous mettre l'eau à la bouche avec une dernière interview pour clôturer l'émission et finir en douceur. Nous allons parler d'un produit phare de notre région, c'est le miel. Nicolas et Christine Schmidt sont apiculteurs Entrevennes. Ils ont jadis créé et géré un centre équestre. Aujourd'hui, ils se consacrent presque exclusivement à la production de miel. Les petites ouvrières de leur miellerie, la Bastide de Castel, sont des milliers répartis en plusieurs centaines de ruches. En plus de produire du miel aux vertus nutritives et gustatives bien connues, leurs insectes pollinisent fleurs, plantes et arbres aux alentours. Au fil des ans, Nicolas et Christine ont établi des liens de confiance avec plusieurs boutiques et artisans qui proposent leur miel de printemps ou de lavande. Et tout a commencé, comme souvent en Provence, par une histoire de famille. Nicolas Schmidt.
Depuis très jeune, en fait, mon grand-père avait des ruches et bon, j'étais initié déjà à l'apiculture. Et puis tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai fait 20 ans d'espace vert. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis en arrivant ici sur Entrevennes, il y a 15 ans, à force de voir passer des camions de ruches, des camions de hausse au moment de la production du miel de lavande, ça m'a pris comme une évidence. Et en fait, j'ai commencé avec quelques ruches et puis je suis allé travailler avec des professionnels, des voisins, des copains pour un peu me former, faire le tour un peu d'une saison complète apicole. Et puis après, je me suis lancé. J'ai commencé avec 20 ruches, et puis 40, 50, 100. Et puis voilà, maintenant j'ai un cheptel plus conséquent. Ça me permet d'en tirer un bon revenu maintenant et d'en vivre.
Quelles sont les plantes qui servent à vos abeilles?
Sur, en Haute-Provence, ben, on a toutes les plantes de printemps, toutes les mielées, les pollens de printemps qui servent à nourrir les colonies. Ça va du thym, une plante aussi qui s'appelle la badasse, les ronces, l'acacia. La liste serait trop longue à faire. Toutes les floraisons que vous voyez au printemps sur lesquelles les abeilles travaillent. Et arrivé en fin de saison, mais ben, en gros, notre production de miel, c'est le miel de lavande du 15 juin au 15 juillet, en gros. C'est là qu'on tire l'essentiel de notre production.
Ça demande beaucoup de travail, s'occuper de ruches?
Pour un cheptel à partir de 200 ruches, c'est quasiment un plein temps du mois de mars-avril jusqu'au mois de septembre. L'hiver, après, c'est beaucoup plus tranquille. Il n'y a que l'entretien du matériel. Éventuellement, la commercialisation du miel si on commercialise au détail.
Vous avez besoin également d'un outillage particulier?
Il faut un véhicule avec un plateau pour pouvoir transporter les ruches, pour éventuellement les transhumer. Il faut une miellerie, un local propre, aéré, et puis du matériel pour l'extraction du miel en inox, normalisé donc.
Nicolas, est-ce que vous devez de temps en temps déplacer vos ruches?
Ah oui, bien sûr, ça fait partie de l'apiculture. Même si à la base, les abeilles ne sont pas des animaux qui transhument naturellement, pour des questions de production de miel différent et des questions d'opportunité de mieler, on déplace nos ruches. Alors précédemment, au début de mon activité apicole, je l'ai déplacé sur pas mal de kilomètres, puisque je descendais sur les morts, sur les stérelles, sur les massifs calcaires du sud de la région. Mais ça, je le fais de moins en moins, parce que pour le confort des abeilles, et puis pour une question aussi de rentabilité tout simplement, parce qu'on se retrouve à faire beaucoup de kilomètres, et on fait pas toujours du miel sur ces endroits-là. Je me suis rendu compte que c'était plus rentable pour moi, et beaucoup mieux pour les abeilles, de bouger beaucoup moins. Donc je pratique le moins de transhumances possible, je fais plus que des transhumances de quelques kilomètres. Je trouve mon équilibre comme ça. C'est pas impossible que dans quelques années, j'essaye de reproduire des miels type miel de romarin ou miel de bruyère. Mais bon, pour l'instant, je reste vraiment sur le local, et je fais du miel vraiment autour de chez moi.
À vos côtés, votre épouse Christine, qui est en charge de la commercialisation et de la vente de votre miel, justement. Comment est-ce que ça se passe, Christine? Il y a un contact avec les clients?
Oui, il y a un contact avec les clients, puisqu'on les accueille directement à notre miellerie, notamment l'été pendant la production et l'extraction du miel. On leur fait visiter la miellerie et on leur explique comment ça fonctionne. Puis on leur fait déguster le miel et en général, ils en achètent. Donc on a ce contact-là. Ensuite, on fait quelques foires et quelques marchés ponctuels, pas hebdomadaires. Lors des foires, c'est pareil, on a un contact, on explique, on fait goûter, on a ce contact-là. Ensuite, le reste de la commercialisation se fait à travers des magasins de producteurs et sur notre boutique en ligne que j'ai mis en place et qui commence à bien fonctionner. La boutique en ligne, ce sont les ruches de la Bastide. Vous tapez les ruches de la Bastide sur Google et si j'ai bien travaillé, vous devriez tomber sur nous. On a une page Facebook aussi, les ruches de la Bastide de Castel aussi, qui est en place et que j'essaye d'alimenter et qui donne des liens sur nos différents sites et notamment sur notre boutique. Ensuite, il y a pas mal de magasins de producteurs. Le plus proche, c'est le stand au Fil des Saveurs à Manosque, où on peut trouver notre miel, et le magasin de Pépin, l'étal des paysans à Pépin, qui revend notre miel. On est aussi au niveau de la distribution du miel dans une pâtisserie qui s'appelle la pâtisserie Kyrillis à Oraison, qui est donc très proche de chez nous et qui pâtisse une grosse partie de ses gâteaux dans lequel il y a du miel avec notre miel de lavande et qui revend notre miel. Vous pouvez passer chez eux pour acheter du miel si vous n'avez pas le temps de venir nous voir chez nous.
Je me suis laissé dire aussi qu'on trouve votre miel dans une glace, c'est vrai ?
Oui, tout récemment, on est en train de faire un partenariat avec un chevrier du Var proche, puisque c'est à côté de Riance. Ces chevriers font des glaces au lait de chèvre. Ils ont introduit notre miel pour sucrer leur glace au lieu de mettre du sucre dedans. Et ils sont en train de créer une glace au miel de lavande qui devrait être commercialisée d'ici la fin de l'été.
Christine et Nicolas Schmitt, merveilleux apiculteurs d'Entrevennes dans les Alpes de Haute-Provence. On retourne en plateau à Manosque avec Fréquence Mistral et on arrive à la fin de cette émission. Alors, Catherine Abbas-Racine, vous êtes à la tête de Couleurs Paysannes, enfin, vous faites partie de l'équipe dirigeante de Couleurs Paysannes. Il y a des producteurs, bien sûr, il y a aussi des salariés. On va peut-être insister sur cette notion justement de professionnalisme que vous avez développé un petit peu particulièrement à Couleurs Paysannes, avant de vous demander un mot de conclusion.
Alors, on a une super équipe de salariés que nous formons régulièrement à nos produits parce que, même si les producteurs, nous sommes fréquemment en magasin, c'est en majorité les salariés qui accueillent les clients et qui renseignent sur nos produits. Donc nous formons nos salariés à nos produits, à nos modes de production.
2500 produits, on le rappelle.
Voilà. Et nous les formons par des visites en exploitation et par des rencontres régulières avec les exploitants parce que c'est nos salariés qui sont le relais avec nos clients. Mais nous sommes aussi, nous, producteurs présents en magasin et nous pouvons renseigner les consommateurs.
Avec le respect également des règles hygiéniques et sanitaires actuelles mais aussi fréquentes dans les magasins d'alimentation et bien sûr tout un achalandage très particulier et actualisé que l'on trouve sur vos étals à Couleurs Paysannes. Un mot de conclusion après cette émission et cette présentation. Est-ce que vous auriez oublié de dire certaines choses, Catherine ?
Ben, moi, je voulais insister sur le fait que les producteurs sont présents en magasin. Donc, j'invite les consommateurs à venir nous retrouver dans les magasins, nous poser des questions. On pourra expliquer comment on produit et même proposer des visites dans nos exploitations. Parce qu'on organise aussi des visites sur nos exploitations pour nos clients.
Et donc pour cela, il faut aller voir tout simplement l'une
Couleurs
des trois boutiques de Couleurs Paysannes à Valensole, Manosque ou Venelle, chez vous-même.
Tout à fait.
Merci Catherine,
merci.
À très bientôt. Et puis toutes nos amitiés à votre fine équipe, aussi bien à Venelle qu'à Manosque et à Valensole. Clément Balcon, un mot de conclusion pour l'Office de tourisme communautaire ?
Oui, bah dans le même sens que Catherine, moi j'invite les locaux, les touristes à aller dans les coopératives, à aller dans les magasins de producteurs, à aller à la ferme quand c'est possible, parce que je crois que le métier de cultivateur, d'éleveur, d'agriculteur, c'est un métier qui est encore méconnu et qu'il est important de faire de la médiation à ce niveau-là. Et puis aller dans la thématique du circuit court, c'est aussi parcourir des espaces et c'est aussi traverser notre territoire de long en large. Et pour moi, la chose la plus importante, ça permet de remettre l'humain au centre de tout ce processus-là. Je crois que le circuit court, c'est créateur de liens. Il me semble que c'est très important.
On peut rappeler que chacun d'entre nous est un être humain, en plus.
Tout à fait.
Donc n'hésitez pas, vous êtes sollicité. C'est sur cette belle réflexion que va s'arrêter cette émission, en vous encourageant bien sûr à suivre les conseils de Catherine Abbas-Racine et de Clément Balcon en ce qui concerne évidemment Couleurs Paysannes et puis tous les producteurs de notre magnifique territoire. Quelle chance on a quand même d'habiter dans ce territoire ici même. Merci Olivier Mouly aussi pour la régie et puis merci à l'équipe de l'Office de tourisme de la DLVA qui nous a aidé à monter cette émission. Passez un très bel été et surtout alimentez-vous sainement auprès des consommateurs et des producteurs locaux. Merci, bonne journée à tous, à bientôt.
Merci François, à bientôt.